段
mode 终端。
Bonsoir, vous êtes bien sur Fréquence Palacoriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Je suis avec Ludo, salut Ludo. Gilles au micro et bien sûr Claude à la technique. Ce soir, une émission un petit peu sur l'économie, enfin sur la fiscalisation et la défiscalisation, également les paradis fiscaux, avec un invité de marque qui va nous appeler par téléphone, c'est M. Vincent Drezet, secrétaire général de Solidaire Finances Publiques. Et en deuxième partie, nous parlerons donc de la violence faite aux femmes, car effectivement, encore aujourd'hui, beaucoup de choses se font au niveau des femmes, c'est-à-dire qu'il y a la prostitution, bien sûr, mais il y a également toutes les violences dans le couple, dans la famille, mais également à l'extérieur de la famille, qui sont faites aux femmes. Donc nous entendrons des intervenantes qui parleront du Sénat, qui était dans le cadre d'un colloque sur la violence faite aux femmes.
C'est un colloque au Sénat.
Un colloque au Sénat, absolument. Merci Ludo pour la précision. Voilà, cette émission commence. Nous allons parler bien sûr pour commencer, avant que cet appel nous soit donné, on va parler bien sûr de l'affaire Cahuzac, qui a quand même été l'arbre qui cachait la forêt. Monsieur Cahuzac s'est donc permis et entré dans une sorte de c'est un peu la pierre qui tourne un petit peu. Hein. C'est, il est dans une sorte de
spirale.
De spirale du mensonge. Il a menti aux Français, il a menti aux députés, il a menti au président de la République en face à face. En même temps, c'est pas vraiment 600 000 euros mis sur un compte en Suisse. Enfin, c'est vraiment pas grand-chose par rapport aux sommes très conséquentes qui ont été données dans les journaux précédemment. Depuis l'affaire Chaban sur sa feuille d'impôt, l'affaire Giscard avec les diamants, enfin un certain nombre de...
on peut faire une remarque, hein, déjà, c'est que auparavant, à ma connaissance, c'était quand même effectivement des scandales qui impliquaient des hommes politiques. C'était dans le cadre un peu de leur fonction quand même. Là, c'est pas tout à fait le cas, puisque c'était les revenus de son semble-t-il, hein, après ce qu'il dit, hein, de son travail.
De son travail, pardon.
Et donc, il rebondit, quoi. Ce qui est bizarre, on peut pas faire du café du commerce, mais ce qui est étonnant, c'est que ce monsieur devienne ministre du budget et ne se doute pas que ça peut lui porter gravement préjudice et qu'il ait besoin de laisser donc un compte à Singapour, sachant qu'en fait on peut quand même se demander, c'est vrai que 600 000 euros c'est pas énorme en termes de patrimoine, hein. Enfin, je sais, pour les Français ça peut choquer, on aimerait, mais c'est quand même pas beaucoup, hein. Je sais pas si vous avez suivi regardez la liste, la publication du patrimoine des ministres, il y a quand même pas mal de ministres qui sont largement au-dessus de 600 000 euros, et on n'a pas le patrimoine de monsieur Cahuzac d'ailleurs, hein. Mais 600 000 euros, alors on peut se demander surtout à quoi servait cet argent, en fait, hein. Pourquoi avoir besoin de 600 000 euros quelque part à l'autre bout du monde. Et donc, enfin, tout ça pour dire que, en fait, l'affaire aurait pu être peut-être pas anecdotique, mais disons n'aurait pas pris une telle importance s'il n'avait pas menti aussi franchement devant l'Assemblée nationale et devant et en public, quoi, et à la télévision, et au point de se demander si, enfin, c'est une question qu'on peut quand même se poser, si dans ce besoin de mentir, c'est comme si finalement le péché n'avait pas été avait été de peu d'importance pour lui, ça a été un péché véniel, et au point qu'il puisse, hein, de façon très très carrée comme ça, affirmer sans embâche que les journalistes racontent n'importe quoi. Et en fait, c'est un peu ça que ça met en lumière. Moi, j'ai envie de dire, hein, c'est un peu le double discours entre, parce qu'on pense évidemment à Éric Woerth, hein, qui est ministre du budget et puis qui dont la femme travaille à la défiscalisation et puis qui se fait embaucher pour chez les Bettencourt pour aider à défiscaliser la fortune des Bettencourt. Donc cette espèce de double discours d'une élite politique qui considère qu'on peut être schizophrène, en fait, et qu'on peut avoir des responsabilités publiques. Et donc, essayer, vaille que vaille, soi-disant, hein, de lutter contre la défiscalisation, mais d'un autre côté, dans le privé, être totalement dans ses pratiques, vous voyez. Et ça, alors, moi j'ai envie de dire, pour une fois, la presse sert à quelque chose. Puisque là, en fait, finalement, à travers ce mensonge, finalement, ce qui est mis au jour, c'est quand même le problème, l'immense problème, alors, non seulement de la défiscalisation, mais aussi des paradis fiscaux et de la défiscalisation, parce que les deux vont vraiment ensemble. Hein. Il faut quand même rappeler qu'on a eu, au cours des 20 dernières années, des baisses d'impôts qui sont énormes, bien sûr, notamment aux États-Unis, en Angleterre, mais même en France, on était sur cette tendance-là. Mmh. Et alors, l'argent... Alors, on a été sur cette tendance-là, mais en plus, on a besoin de... Voilà, les gens qui ont de l'argent ont besoin d'aller le planquer quelque part à l'international.
À la limite, on lui reproche plus d'avoir menti que d'avoir 600 000 euros sur un compte offshore.
Ben, moi, non. Je trouve qu'au contraire, l'intérêt, c'est que... Mais c'est toujours comme ça que ça marche en politique ou dans les médias. C'est que finalement, à travers un petit cas d'espèce qui, effectivement... Pareil, comme, sauf que c'est quand même assez énorme. Il est responsable politique, oui. Il est ministre du budget. Alors c'est peut-être une bécadille, mais ça va pas du tout, quoi. Il y a une schizophrénie, quoi. Mais je trouve qu'au moins, à travers ce petit machin, ça met en lumière un vrai débat qui est effectivement enfin, parce que paraît-il, l'onde de choc est terrible. Alors peut-être que on a réellement l'intention de s'occuper des paradis fiscaux un jour, peut-être, hein, de façon coordonnée. Et puis, et c'est vrai que la publication des patrimoines, en fait, c'est pas vraiment une réponse. Je veux dire, Cahuzac aurait pu publier son patrimoine, c'est pas la publication du patrimoine qui lui aurait permis de mettre à jour son compte en Suisse. Son compte, oui, en Suisse et en Suisse, Singapour.
Je vais t'interrompre deux secondes parce que je crois que Monsieur Vincent Drosen est au téléphone. Oui.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, monsieur. Donc vous êtes Monsieur Vincent Drosen, vous êtes secrétaire général de Solidaire Finances Publiques, n'est-ce pas ?
Oui.
Voilà. Alors j'aurais voulu commencer par avoir un petit peu votre sentiment sur cette affaire Cahuzac, puisqu'on en parlait juste un instant. Qu'est-ce que ça vous inspire, puisque apparemment c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, à votre avis ?
Alors oui, il y a plusieurs choses dans l'affaire Cahuzac. Il y a déjà le fait qu'un ministre du budget qui a porté l'effort que chacun doit faire compte tenu de la situation des comptes publics, qui a porté la lutte contre la fraude fiscale, qui avait la responsabilité de l'administration fiscale et donc du contrôle fiscal, que le ministre du budget se soit livré à la fraude fiscale, le symbole, il est absolument terrible. On a pu voir, nous, dans les services, c'est la première répercussion de cette affaire-là, parce que, comme tous les jours, les agents des finances publiques sont au contact du public, soit parce qu'ils reçoivent des personnes, soit parce qu'ils vont en contrôle fiscal, eh bien, les premières remarques ont fusé. Donc, ce qui a été terrible, c'est que, au-delà du fait que quelqu'un fraude, malheureusement, il y en a beaucoup, c'était le ministre du budget. Et donc, ça a atteint l'institution et, je veux dire, ça a presque atteint, affaibli le consentement à l'impôt qui n'avait pas besoin de ça. Alors après, il y a la dimension de la fraude. J'allais dire, en faisant un peu de provocation, s'il y a vraiment que 600 000 euros en Suisse, c'est presque un petit fraudeur au regard de ce qu'on peut connaître par ailleurs. Bon. Au-delà de la dimension symbolique du fait qu'il était ministre du budget, ce qui est vrai, c'est que ça met en lumière l'importance de la fraude fiscale, l'importance de la fraude fiscale des particuliers, il ne faut pas oublier aussi celle des entreprises qui est beaucoup plus coûteuse, puis ça met en lumière aussi un échec, c'est l'échec de la lutte contre la fraude fiscale qui a été souvent, glorifié, on a entendu les paradis fiscaux c'est fini, le secret bancaire c'est fini, plus ça c'était en 2009, hein, mais plus en avant encore, il y avait au début des années 2000, à la fin des années 90, des travaux de l'OCDE sur la concurrence fiscale et sur les paradis fiscaux, donc on avait dit on va faire des listes noires pour en finir. Donc ça met en lumière cet échec. Manifestement, il n'y a pas eu de volonté politique de lutter contre la fraude fiscale au sens large et donc de lutter contre les paradis fiscaux. Alors voilà, aujourd'hui, il y a à nouveau des déclarations. Moi, j'ai envie de dire, c'est très bien les déclarations, mais pour l'instant, qui vivra verra. Hein. On verra si c'est suivi des faits.
À votre avis, vous avez une idée quand même sur cette espèce d'incapacité des États à lutter contre les paradis fiscaux ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont incapables de se coordonner ? Est-ce que c'est réellement un manque de volonté politique ? Ou est-ce que chaque pays a besoin de son petit paradis fiscal ? Alors je pense pour la France à Monaco par exemple, ou à l'Europe au Luxembourg.
Il y a probablement un peu de tout ça, mais en toile de fond, il y a quand même une idéologie qui porte l'idée qu'il faut moins d'impôts, moins d'État, moins de protection sociale également, parce que par extension c'est moins de recettes publiques, et davantage de régulation par le marché. Donc cette idéologie qu'on peut qualifier de néolibérale, c'est quand même elle qui porte le fait qu'il faut moins d'impôts. Bon, Ensuite, elle porte cette idéologie, la concurrence fiscale et sociale, comme un instrument de, entre guillemets, de régulation. Selon la théorie néolibérale, la concurrence fiscale, c'est une forme d'aiguillon qui permet d'éviter une dérive à la hausse des dépenses publiques et des impôts. Alors, tout cela est très théorique, et toujours dans la théorie néolibérale, on retrouve l'idée que, grâce à la concurrence fiscale, et bien, finalement, il y a une forme de coordination harmonieuse qui se passe. Bon, dans les faits, c'est absolument pas ça qui se passe. Dans les faits, on a des États qui se sont effectivement fait une concurrence fiscale, qui ont allégé les impôts des entreprises et les impôts des ménages les plus riches. Pourquoi ? Ben parce qu'ils ont allégé l'impôt qui pesait sur les richesses pour attirer les richesses ou pour les retenir sur le territoire. Ce faisant, ben, on s'est tourné vers les classes moyennes et également vers les PME en disant ben, c'est plutôt vous qui allez payer. Hein, donc on a créé un déséquilibre fiscal. Ça n'a pas relancé l'activité économique. Et dans cette concurrence fiscale, l'expression, j'allais dire, la plus extrême, ce sont les paradis fiscaux, qui sont également des paradis fiscaux et judiciaires, parce que non seulement ils permettent d'échapper à l'impôt, ils sont des formes, comment dire, de soupapes pour les néolibéraux, mais ils permettent également, du fait de l'opacité, de blanchir l'argent issu de divers trafics, par exemple. Et ce sont également des zones de déréglementation financière, et on sait qu'ils ont joué un rôle important, si ce n'est majeur, dans la genèse et le développement de la crise financière. Donc, à chaque fois qu'on s'intéresse à la fiscalité, au blanchiment, à la crise financière, on retrouve ces territoires-là qui ont été considérés par certains comme des soupapes de sécurité face au trop d'impôts, qui ont été utilisés par tous les acteurs qui voulaient échapper à la norme. Et comme il y avait cette concurrence fiscale qui était politiquement voulue, eh bien on s'est privé d'harmonisation fiscale au niveau de l'Union européenne, par exemple, et on s'est privé de véritables outils, parce que dans cette concurrence fiscale, chaque État étant, entre guillemets, souverain, eh bien il n'a pas voulu aller trop loin, par exemple, dans la lutte contre la fraude, au motif que si lui allait tout seul trop loin, c'était ses concurrents qui allaient en tirer le bénéfice. Et donc aujourd'hui, ce qui est posé, c'est véritablement l'échec de ce système-là.
Et au passage, d'ailleurs, il y a quand même un paradoxe, puisque la Commission européenne est capable, elle, d'imposer des normes pour les dépenses publiques, mais pas pour l'harmonisation fiscale.
Bien sûr, mais la Commission européenne réglemente, j'allais dire, à tour de bras. Maintenant, une bonne partie du droit national est issue de la production du droit européen. Mais c'est vrai qu'on est capable de faire des choses particulièrement fines, poussées sur le plan technique, y compris. Simplement, sur la fiscalité, on a laissé ça un peu de côté. Si ce n'est, et c'est ce qui est quand même intéressant, et ce qui peut aussi donner un peu d'espoir, que certains travaux de la Commission européenne sur l'harmonisation de l'impôt sur les sociétés, sur l'harmonisation de la TVA, sur les échanges d'informations en matière d'imposition des revenus de l'épargne, certains travaux ont montré que techniquement tout cela était faisable. Et c'est intéressant de noter, parce que quand on parle d'harmonisation fiscale européenne, on est souvent traité de doux rêveurs et utopistes en disant de toute façon ce n'est pas possible, notamment techniquement. Si, techniquement c'est possible. Le problème est bien une question de volonté politique, ce qui ne veut pas dire que c'est pour demain, que c'est facile à mettre en œuvre. Mais pour autant, on sait que techniquement, on peut harmoniser l'impôt sur les sociétés en Europe, et c'est nécessaire parce que ça éviterait des déplacements artificiels de richesses. On peut harmoniser la TVA, et on sait que le système de TVA est très fraudé, donc ça permettrait de lutter contre la fraude à la TVA. On peut avoir un système d'échange informatique automatique d'information. On peut donc, par construction, créer des impôts européens qui alimenteraient le budget européen. Donc tout cela, techniquement, est parfaitement faisable. Ce qu'il faut, c'est avoir un débat sur la nature de l'Europe, sur les politiques européennes, et donc c'est véritablement un débat politique par excellence.
Est-ce que vous avez une idée, ou est-ce que vous pouvez chiffrer le montant de la fraude fiscale aujourd'hui, donc en 2013, le montant de la fraude fiscale, donc comme vous le dites, à la fois sur les particuliers et sur les entreprises, sans parler forcément de la défiscalisation qui est légale, et qui est aussi un manque à gagner pour le trésor public?
Oui, c'est ça. Il faut absolument distinguer deux choses. Il y a tout ce qui est optimisation, c'est-à-dire utilisation des mesures dérogatoires, des niches fiscales, et donc ça représente un coût supérieur à 100 milliards d'euros pour le budget de l'État. Et puis il y a ce qui est illégal, c'est-à-dire l'évasion et la fraude fiscale. Alors on a sorti Solidaires Finances Publiques un rapport au mois de janvier dernier qui évaluait le coût annuel de la fraude fiscale en France entre 60 et 80 milliards d'euros par an. Ce qui est un montant colossal, parce que c'est l'équivalent du budget de l'enseignement scolaire et de la sécurité réunis. Et ce montant-là, évidemment, il pèse sur le budget public. mais comme en plus il est le fruit notamment de la grande fraude, il montre qu'il y a une inégalité, y compris devant la fraude. On sait qu'il y a une inégalité devant l'impôt, il y a une inégalité devant la fraude fiscale. Et tout cela affecte le consentement à l'impôt. Donc on est sur 60 à 80 milliards d'euros. Il faut ajouter à cela ce qu'on appelle la fraude aux ressources sociales, notamment qui est issue du le produit du travail non déclaré.
Donc la TVA, par exemple, la fraude à la TVA, peut-être ?
Alors, la fraude à la TVA, c'est vraiment de la fraude fiscale. Mais lorsqu'on a du travail non déclaré, ou lorsqu'on a, par exemple, des plus-values non déclarées, on peut avoir une fraude aux ressources sociales, une fraude à la CSG, par exemple, ou une fraude aux cotisations sociales. Et lorsqu'on additionne les deux, on est sur 80 à 100 milliards d'euros de fraude aux recettes publiques. Ce montant-là, d'ailleurs, a été confirmé de fait par la Commission européenne, qui dernièrement a chiffré la fraude au niveau de l'Union européenne. Enfin, c'est un chiffre absolument hallucinant, de 1 000 milliards d'euros à l'échelle des 27 pays de l'Union européenne. Et la Commission européenne dit environ 100 milliards d'euros pour la France. Donc on voit que les estimations se recoupent. Alors c'est vrai que c'est très dur d'estimer la fraude, mais pour autant c'est absolument nécessaire, ne serait-ce que pour montrer les enjeux qu'il y a, les enjeux au plan national, parce qu'on peut développer des outils au plan national, et les enjeux au niveau européen, parce que là, maintenant, à l'évidence, il faut passer la seconde. Et aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que tout ce qui a été fait n'est pas forcément à jeter, n'est pas forcément inintéressant. En tout cas, tout ce qui a été fait demeure, ça c'est sûr, totalement insuffisant. Et donc, il faut une double stratégie nationale, et ça c'est la responsabilité du gouvernement, et internationale, notamment au niveau de l'Union européenne. Et là, ben, de deux choses l'une, hein. Soit on attend de se mettre d'accord à 27, et ça va être très dur, parce qu'il y aura des États qui ont le secret bancaire, comme l'Autriche en ce moment, qui refusent de coopérer, donc on ne pourra pas avancer. Ou alors, il y a une discussion politique avec un rapport de force, et éventuellement qui passerait par une coopération renforcée à 9 États ou plus, et à ce moment-là, on pourrait avancer. Mais là encore, tout est question de volonté politique.
Alors justement, dites-moi, monsieur, quels sont les outils coercitifs que vous avez au niveau des impôts, par exemple, pour éventuellement retrouver les individus et éventuellement leur mettre une amende ou pour certains peut-être même la prison pour délit majeur. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle chez vous. Parce que là, il y a eu un chiffre de 353 noms qui ont circulé sur le monde d'aujourd'hui par rapport à une banque suisse. Est-ce que vous avez des outils pour justement pallier à ces évasions un petit peu ou pas du tout ?
Alors, on a des outils, mais ils sont insuffisants. Bon, il y a les outils, classiquement, on a trois catégories d'outils. On a les moyens juridiques, les moyens matériels, les moyens humains. Sur les moyens juridiques, il y a eu quelques nouveautés. En 2009, en 2012, il y a eu quelques nouveautés. Ce ne sont pas des révolutions, ce n'est pas le Big Bang fiscal attendu, mais pour autant, il y a eu des nouveautés intéressantes. Le problème, c'est de pouvoir les utiliser. Aujourd'hui, les moyens matériels humains ne permettent pas de les utiliser pleinement, ce qui pose quand même problème, parce que ça veut dire, par exemple, que lorsqu'on signe des conventions fiscales entre la France et d'autres États, bien, faute de temps, faute d'informations, on ne peut pas utiliser ces textes-là. Par voie de conséquence, on peut donc très difficilement lutter contre la fraude fiscale internationale. Donc sur les moyens juridiques, je ne les qualifierais pas de suffisants, mais ils sont intéressants, insuffisants, et pour autant on n'a pas la capacité de les utiliser, parce qu'en termes notamment de moyens matériels, mais surtout de moyens humains, nous ne sommes pas assez nombreux pour les utiliser. Il faut savoir que l'administration fiscale perd tous les ans des emplois, la RGPP a opéré une véritable saignée, et ces emplois ont lourdement pesé sur plusieurs services de l'administration fiscale, notamment des services qui détectaient la fraude et qui étaient le socle du contrôle fiscal, c'est-à-dire ceux qui étudiaient les dossiers, qui, par voie de recoupement, pouvaient détecter des anomalies. Et à partir du moment où on a affaibli ces services-là, eh bien, on s'est privé d'une détection efficace de la fraude fiscale. Donc aujourd'hui, ce qui est clairement posé, c'est le renforcement de moyens humains sur au moins trois chantiers. Le premier chantier, c'est tout ce qui est la gestion des dossiers, également l'accueil du public, la gestion des dossiers. Le deuxième étage, c'est le travail de recoupement des données et de programmation du contrôle fiscal. Et le troisième étage, c'est évidemment celui du contrôle fiscal. Et si on arrivait à renforcer cela, alors on pourrait au moins utiliser les moyens juridiques qui sont à notre disposition, les utiliser pleinement, sachant que ces moyens juridiques, aujourd'hui, demeurent insuffisants et qu'il faut maintenant passer la seconde. Et passer la seconde, c'est pas simplement essayer de chercher une aiguille dans une botte de foin, c'est maintenant établir un système d'échange automatique d'informations afin que toutes les administrations fiscales aient les informations sur l'activité, les comptes bancaires, les filiales des agents économiques, qu'ils soient entreprises ou particuliers, qui résident sur le territoire. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est quand même absolument anormal, c'est que si vous vous débrouillez bien, si vous êtes une entreprise ou si vous êtes un particulier, bien conseillé, ben vous allez réussir à loger, l'affaire Cahuzac le montre, l'affaire Bettencourt l'a montré, vous allez pouvoir loger des sommes importantes, notamment dans des paradis fiscaux. Vous allez pouvoir utiliser des régimes fiscaux tout particuliers qui sont au travers de montages sophistiqués, qui auront l'apparence de l'optimisation, mais qui seront en fait de la fraude parce qu'ils ne correspondront pas à une activité économique réelle. Et si on n'a pas d'échange automatique d'informations, on ne peut pas, nous, détecter les fraudes.
Oui, alors revenir un peu sur le, enfin, sortir un peu de la fraude fiscale, parce que comme vous êtes le président donc du syndicat, enfin de l'ancien syndicat national unifié des impôts, concernant la politique de François Hollande, parce que on parle, vous avez parlé, on a parlé un moment de fraude à la TVA, on peut se dire, et de travail informel, hein, et aussi de travail au noir, on peut se dire qu'en haute période, en période de haut de chômage élevé, le travail au noir a naturellement tendance à se développer. En fait, c'est presque un refuge par rapport, donc voilà, au chômage. Or, finalement, la politique de François Hollande, donc d'un côté vise à augmenter donc l'impôt sur le revenu, entre autres, et tout ce qui concerne les taxations sur les entreprises, mais de l'autre côté à augmenter la TVA et donc à faire cadeau, hein, au patronat, ce fameux crédit d'impôt. Vous, en tant que en tant que spécialiste des impôts, qu'est-ce que vous en pensez de ce type de politique un peu qui est un peu dans deux directions peut-être contradictoires, non?
Oui, alors ce qu'il faut voir, c'est que si on regarde depuis un an la politique fiscale qui était suivie, on peut dresser un peu comme un bilan, hein, donc un actif, un passif. À l'actif, moi j'y mettrais la tranche à 45%, parce que c'est intéressant de regagner en progressivité, surtout que depuis les baisses Fabius, Raffarin, Copé, finalement on n'avait fait que baisser l'impôt sur le revenu, donc on s'était privé de recettes, et puis on avait affaibli la progressivité de l'impôt, et quand on affaiblit la progressivité de l'impôt, on alimente les inégalités de revenus. Donc ça c'est intéressant, tout comme est intéressant l'alignement encore partiel de la fiscalité des revenus du capital sur la fiscalité des revenus du travail. Ce qui était intéressant également, c'est d'essayer de plafonner une niche fiscale, même si il y a très peu de niche fiscale sous le plafond. Bon. Et puis également, sur le quotient familial, le fait de rabaisser le plafond permet de rétablir un petit peu de progressivité. Donc ça, c'est intéressant, mais au passif, on a le fait que on s'est privé finalement d'un début de mandat assez fiscal pour renforcer davantage la progressivité. On aurait pu tout à fait installer une tranche à 50, à 55, voire à 60% à l'impôt sur le revenu, ça n'a pas été fait. Il y a eu ce gadget de la taxe à 75% qui était de toute façon condamné d'avance et de toute façon ne pouvait être que totalement symbolique. Donc ça, c'est bien dommage. On n'a pas nettoyé l'assiette, c'est-à-dire de l'impôt sur le revenu notamment, c'est-à-dire on n'a pas fait un plan de révision des niches fiscales comme ça aurait été nécessaire pour dégager des ressources et pour rétablir davantage de progressivité. Et puis il y a l'augmentation de la TVA. On sait que la TVA est un impôt plus injuste que l'impôt sur le revenu, parce que lorsque vous achetez un bien 12 euros, eh bien, que vous soyez richissime ou RMI, vous allez payer 2 euros de TVA. Simplement, les 2 euros de TVA, ils vont peser proportionnellement plus lourdement dans le budget du RMiste que de milliardaire.
On peut supposer que les riches, entre guillemets, consomment plus. Et donc, ils payent plus d'impôts à la TVA.
Ils consomment plus en valeur absolue. Simplement, quand vous prenez un revenu, le revenu d'un ménage pauvre va être entièrement consommé. Le revenu d'un ménage riche va être en partie épargné. Et donc, la proportion de TVA diminue au fur et à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie des revenus. Et ce qui est surtout, ce qui peut le goût amer, c'est que non seulement on augmente la TVA, qui est un impôt injuste, mais on va redonner 20 milliards d'euros par un crédit d'impôt aux entreprises. Et un crédit d'impôt qui a une assiette très large, qui sera très facile à percevoir et dont on ne sait toujours pas comment il va être contrôlé. Et ni par nos services, ni en termes d'efficacité économique, on ne sait pas comment il va être contrôlé. Donc il y a fort à parier, malheureusement, parce que c'est c'est aussi un acquis d'expérience. On a vu que certains crédits d'impôt, comme le crédit d'impôt recherche, n'allaient pas toujours à une véritable recherche. Donc il y a malheureusement fort à parier que ce type de crédit d'impôt va générer des effets d'aubaine, va s'avérer extrêmement coûteux, avec un retour faible ou en tout cas totalement disproportionné au regard du coût pour la collectivité. Et ce qui est bien dommage, c'est que à partir du moment où il y avait eu un débat sur la fiscalité pendant la campagne électorale, où il y avait des orientations qu'on partage ou pas d'ailleurs, mais il y avait un certain nombre d'orientations, c'est qu'on s'est retrouvé quelques mois après avec des ajustements plus ou moins intéressants, mais à côté de ça, une tendance lourde qui reste maintenue, et la tendance lourde, ça reste quand même d'accroître un certain nombre d'impôts particulièrement injustes, comme la TVA. Et d'ailleurs, malheureusement, on peut penser que ça n'est pas fini, parce qu'il y a un chantier qui s'est ouvert sur la fiscalité écologique, qui est un débat extrêmement intéressant et important, sauf qu'il faudra regarder de près cette question de la fiscalité écologique, parce que derrière un terme attractif et légitime, on peut aussi y ranger des impôts sur la consommation qui ont le même effet que la TVA sans avoir d'effet écologique avéré. C'est malheureusement ce qui s'est passé dans certains pays européens, donc il faut être particulièrement vigilant à ce qui va se développer en la matière au cours de l'année 2013 et 2014.
Alors, dernière question, monsieur, si vous me permettez. Comment pensez-vous régler le problème entre les différents pays européens pour le partage des fichiers des gens qui vont mettre leur argent dans des pays offshore, un petit peu par exemple, en 89, il y avait eu une signature entre la France et la Suisse pour justement ce partage de fichiers de riches qui mettaient leur argent dans des banques suisses. Apparemment, ça n'a pas donné. Le secret reste actuel. Hein,
pas en Suisse.
Oui.
Oui, alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est aujourd'hui dans un système basé sur l'accord d'échange de renseignements, autrement dit les conventions fiscales. Donc, ces accords sont des accords bilatéraux, c'est-à-dire qu'à chaque fois, la France va passer un accord avec un autre pays, et ça lui donne le droit, éventuellement, de demander des informations sur un contribuable. Simplement, il faut que ce contribuable soit bien identifié en amont, qu'on se pose un certain nombre de questions, qu'on précise bien notre demande. En tout cas, ça veut dire que c'est particulièrement lourd à mettre en œuvre. Par exemple, depuis 2010, la France a envoyé environ 72 demandes de renseignements à la Suisse. Elle a répondu environ la moitié. Donc, c'est totalement imparfait. Et encore, ça n'est pas le pays qui coopère le moins, il faut le savoir. Donc aujourd'hui, on voit bien que c'est totalement insuffisant parce que ça suppose pour nous de regarder dans nos dossiers, d'essayer de détecter des anomalies, d'avoir suffisamment d'informations pour faire une demande précise et enfin espérer que la Suisse ou un autre État nous réponde. Donc il faut absolument renverser le système et passer non plus à un système à la demande au coup par coup, mais un système d'échange automatique d'informations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes une entreprise ou un particulier établi en France, normalement vous êtes imposé, lorsque vous êtes un particulier, par exemple, sur l'ensemble de vos revenus mondiaux. Bon. Ben, ça veut dire que les autorités publiques françaises doivent être destinataires de renseignements sur les comptes ou les sociétés que vous avez ouverts et créés à l'étranger. Ce qui veut donc dire que si vous ouvrez par exemple un compte en Suisse ou en Allemagne, eh bien ces États-là doivent communiquer tout de suite, sans attendre une demande de la France, les informations nécessaires pour que nous puissions calculer l'impôt sur l'ensemble de vos revenus mondiaux. Et c'est à peu près la même logique au niveau des entreprises. Et c'est quelque chose d'absolument fondamental si on veut simplement bien appliquer la loi fiscale et par voie de conséquence si on veut lutter contre la fraude. Alors il y a aujourd'hui, donc cet échange d'informations, il est techniquement possible. Évidemment, encore une fois, c'est la volonté politique qui manque. Mais on peut s'appuyer sur l'exemple américain, pour un coup, avec le dispositif FATCA. Les Américains ont, avec des mesures de rétorsion, imposé un système qui va rentrer bientôt en application à un certain nombre d'États pour forcer cet échange automatique d'informations. Ça sera intéressant de voir d'ailleurs le bilan de ce dispositif lorsqu'il se mettra en œuvre, mais ça peut être quelque chose qui pourrait être mis en œuvre à l'échelle de plusieurs États européens. Par exemple, une coopération renforcée, on peut tout à fait avoir 9 États qui se mettent d'accord pour imposer FATCA à un certain nombre de partenaires, et si les 9 États se mettent d'accord, il y a fort à parier que derrière, il y aura 10, 12, 15 États qui se livreront également, qui intégreront ce dispositif, parce que par ce dispositif, on peut calculer mieux l'impôt, mais ça provoquerait mécaniquement une hausse des recettes et une baisse de la fraude. Et vu l'état des comptes publics des différents États européens et au-delà, eh bien, ce dispositif aujourd'hui il regagne un peu de crédibilité et de couleur. Et il faut maintenant faire en sorte de maintenir une forme de pression pour qu'ils se mettent enfin en place, parce que sinon, on va se retrouver dans la situation où on était il y a encore pas longtemps, où on a vu des grandes déclarations pendant quelques semaines, quelques mois, et où tout ça avait accouché d'une souris.
Dernière question, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous diraient que finalement tout ça ferait fuir donc les capitaux, l'investissement et encouragerait les délocalisations ?
On pourrait dire que ça fera sans doute fuir la spéculation et que ce n'est pas grave, et que comme la France, comme d'autres pays, restent des territoires où il est intéressant d'investir, à partir du moment où il est intéressant d'investir, des capitaux utiles peuvent venir. C'est un argument, la question des délocalisations et des fuites, qui a systématiquement été invoquée dès lors qu'il y avait eu un progrès en termes de politique fiscale. Il faut lire, par exemple, les échanges qu'il y avait à la fin du 19e siècle sur la création de l'impôt sur le revenu, où on avait à nouveau la peur de la fuite des capitaux. Il faut regarder ce qui avait été instauré au début des années 80, ce qui n'était pas révolutionnaire, mais quand même, pour revoir où l'attention, tout le monde va fuir. Lorsque l'ISF a été recréé à la fin des années 80, on avait les mêmes arguments. Systématiquement, il y a eu ce jeu sur la peur des délocalisations. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de délocalisation, mais c'est un jeu qui ne se base pas simplement sur la fiscalité. Il y a des économies ouvertes et déréglementées, mais malheureusement, qui peuvent autoriser ça. En tout état de cause, on sait que la politique fiscale n'a jamais, en tout cas jusqu'à présent, le fait d'avoir plus de progressivité, le fait d'avoir plus de recettes publiques, ça n'a jamais plombé l'activité économique d'un pays. Au contraire, les États qui aujourd'hui ont le niveau d'activité économique le plus développé malgré la crise, ça reste des États qui ont un niveau de prélèvement obligatoire assez élevé, ils sont plus ou moins libéraux, mais comme quoi l'impôt n'est pas l'ennemi de l'activité économique.
Très bien, merci beaucoup monsieur d'être intervenu dans cette émission.
Merci à vous.
Vous pouvez revenir quand vous voulez, nous parler des informations si vous en avez au fur et à mesure que ça arrivera. Hein. Voilà, vous êtes ici chez vous. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Donc on va écouter une petite chanson, ensuite on reprend la parole. Merci.
C'était l'homme et sa chanson. Quand on est mort, c'est pour de bon.
Alors, si certains gagnent 4 clous et des planches, d'autres mettent leur argent dans les sociétés offshore et les paradis fiscaux. C'était donc Léo Ferré, c'était 4 planches de bois et des clous, voilà donc. Cette émission se reprend, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs précaires. Je vous remercie d'être avec nous. On reprend cette émission, donc on va parler maintenant, on va vous parler plus ou moins de la violence qui sont faites aux femmes, puisque effectivement il y a eu un colloque au Sénat sur la violence faite aux femmes. Donc nous allons dans un premier temps écouter une intervenante qui va nous parler de la violence. Oui. Donc oui Ludo, tu voulais dire ?
Non mais oui, en fait, c'est-à-dire que bon, c'est un thème qui est récurrent pour expliquer, mais c'est un thème qui de plus en plus, en fait, on légifère sur la question et donc les statistiques parlent d'elles-mêmes, donc les violences aux femmes restent très très importantes, elles restent très 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 importantes dans le couple et dans tous les milieux. Il n'y a pas d'a priori sur cette question. Hein. Donc il y a des suites judiciaires qui progressivement sont, enfin des suites plutôt, oui, des réponses judiciaires qui sont progressivement apportées. Et alors ça donne donc pour donner cet exemple, c'est récemment une campagne de presse sur les pervers narcissiques. Donc c'est à dire que là on prend le cas extrême, hein, de dévalorisation d'une personne dans le couple, d'une dévalorisation extrême et de tout ce qui s'ensuit. Mais en fait il faut savoir que ces violences sont assez banalisées dans le couple et que d'une certaine façon beaucoup de gens peuvent en fait peuvent tomber dedans en fait, hein, voilà. Donc oui, enfin je sais pas si vous voyez ce que je viens entre, oui, la violence ultime et donc le nombre de morts et puis les violences quotidiennes. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut être condamné pour harcèlement moral dans un couple et c'est au pénal. Il n'y a pas seulement la violence physique en fait. Voilà.
Bon, on écoute si on peut. Voilà, merci. Merci Ludo.
Je vais donner la parole à Michel Lou.
Bonjour à toutes et à quelques-uns. Il est difficile pour moi de parler au nom d'Europe Écologie parce que, à ma connaissance, nous n'avons pas fait au sein du parti ces dernières années de travail spécifique sur une amélioration du projet de bloc-là. Comme vous le savez très certainement, au sein de mon parti, il y a de grandes divergences entre des membres qui sont, je dirais, pour la liberté individuelle de se voiler, de se prostituer, de louer son ventre, etc. Et une autre partie, fortement opposée à ça. Donc le débat continue. Voilà. Donc, si je parle seulement des violences conjugales, bien sûr, évidemment, là, il y aura une unanimité pour dire oui, c'est pas bien. Hein, il faut légiférer, il faut améliorer la loi, il faut davantage de touchement, voilà. Tout ça, ça fait consensus, bien sûr. Hein, voilà. Ceci dit, si on parle de la prostitution, ça devient encore plus compliqué. Puisque la prostitution, moi je considère que c'est une violence et qu'on doit la traiter comme telle. Et évidemment, un certain nombre de personnes et d'élus de mon parti soutiennent le STRAS qui s'appelle de façon totalement illégitime pour moi un syndicat. Enfin, moi j'étais syndicaliste et pour moi ça n'a rien à voir avec un syndicat. Parce qu'en face de travailleurs, il y a un patron. Et là, le patron le cherche si ce n'est le client. Bon, donc, de la même façon pour la gestation pour autrui, là encore, il y a débat, puisque, pour moi, aller louer le ventre d'une femme, c'est une violence, et ça doit être traité comme tel. Et d'autres disent, mais non, liberté, bien sûr, voyons, c'est parce qu'elle aime être enceinte, voyons. Voilà, donc, vous voyez... Si on regarde bien, ce débat est dans tous les partis. Alors, il y en a où la balance est un petit peu plus d'un côté, ou un petit peu plus de l'autre, mais je crois que si on veut être honnête, ce débat traverse l'ensemble des partis politiques. Et il faudrait vraiment que le mouvement réellement féministe, à mon sens, soit beaucoup plus puissant pour pouvoir contrer tous ces reculs sur les droits des femmes qui s'immiscent à travers un certain nombre de lobbies, parce que je crois qu'il faut les appeler comme ça. Ce sont des lobbies qui infiltrent nos partis politiques pour pouvoir infléchir les politiques publiques. Et en face de ça, alors bon, ces lobbies ont de l'argent pour mener ces bagarres en interne. Et malheureusement, en face, nous ne sommes pas organisés et nous n'avons pas les moyens non plus d'avoir, de contrebalancer ces lobbies. Donc, ça serait mon premier point. Alors, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est sur le projet de loi cadre, dont j'ai eu le privilège, comme les intervenants, d'avoir une petite mouture il y a quelques jours, et que j'ai rapidement survolé, faute de temps de l'approfondir. Mais il me semble qu'il y a un certain nombre d'améliorations, effectivement, à faire. Au regard de ce que je vois, moi, dans ma pratique quotidienne, puisque je suis aussi vice-présidente de deux associations, l'une, les élus contre les violences faites aux femmes, et l'autre, du côté des femmes, dans le Val-d'Oise. J'y reviendrai plus tard. Donc, au niveau de l'association des élus contre les violences faites aux femmes, ce dont nous sommes saisis et dont nous nous sommes saisis après l'affaire Strauss-Kahn, c'est le rôle, la place des élus, soit mis en examen, soit condamnés, condamnés à titre définitif. Or, un certain nombre d'élus en place ou en responsabilité, soit comme employeur, soit sans relation hiérarchique, peuvent être condamnés et continuer en toute impunité à être présentés par leur parti pour de nouveaux mandats et même continuer à être élus. Donc, nous militons au sein de CDF pour qu'une peine d'inéligibilité soit incluse dans le code pénal pour ce genre de cas. Voilà, alors après, il peut être discuté, la durée, c'est pas forcément à vie, ça dépend de la gravité, peut-être, etc. Bon. Mais voilà, il y a un débat à avoir autour de l'inéligibilité d'élus condamnés. Et en attendant qu'ils soient condamnés à titre définitif, eh bien, la moindre des choses, ça serait qu'ils soient suspendus de leur mandat. En attendant que la justice tranche. Parce que, effectivement, comme disait Malka tout à l'heure, il y a cette fameuse présomption d'innocence qu'on nous a donné en long, en large et en travers dans l'affaire Strauss-Kahn, sans mettre au regard la présomption de sincérité, hein, qui était mise en avant dans le cas de Nafissa Tounkel. Donc, il y a quand même là quelque chose à réfléchir, à creuser, pour essayer d'améliorer les choses. Au niveau de l'autre association, du côté des femmes, c'est une association qui a plusieurs secteurs d'activité, qui gère deux CHRS, à Cergy et à Sarcelles, qui a deux espaces de citoyenneté et d'accueil pour les femmes culturelles, d'accès aux droits, etc. Un secteur d'intervention en collège de prévention des comportements sexistes et des comportements violents, et puis un secteur d'insertion dans l'emploi. Et au titre de cette activité, j'ai participé, il y a quelques mois, 6 mois, à un procès en cour d'assises. Non, c'était la première fois que j'y allais, pour un assassinat, un homme qui a étranglé sa femme, alors que celle-ci avait déposé une plainte pour coups et violences, coups et blessures, son père, deux plaintes pour menaces de mort réitérées. Ce monsieur avait été écarté du domicile et avec l'interdiction d'approcher pendant 2 mois, et le JAF a décidé que monsieur pouvait revenir à la maison. Et donc ce procès, enfin là je vous donne les choses les plus importantes, les deux points les plus importants qui me semblent vraiment devoir être peut-être dans une amélioration par rapport à la loi, au projet de loi. La première des choses, alors c'est traité dans la loi sur ce juge unique qui serait le juge de la violence. Alors est-ce que c'est la seule modalité? Est-ce que, bon, comme le disait Nicole tout à l'heure, c'est peut-être un magistrat spécialisé? Enfin bon, peu importe. Mais en tout cas, ce qui est indispensable, c'est effectivement la liaison du pénal et du civil. Ça, quelle que soit la situation, soit un juge unique, soit des magistrats spécialisés, mais enfin, il faut qu'il y ait une liaison automatique entre le pénal et le civil, et le civil ne doit pas pouvoir statuer sur quoi que ce soit tant qu'il n'est pas informé du pénal. Donc ça, il me semble qu'il faut que ça soit dit très clairement dans les lois. La deuxième chose, c'est l'autorité parentale. Alors, la famille qui était partie civile, puisqu'il y avait 5 enfants dans ce couple, et les sœurs qui ont pris en charge les enfants, demandaient à leurs avocats, il y avait 3 avocats de la partie civile, demandaient le retrait de l'autorité parentale. Or, l'avocat général a refusé que ce soit soumis à la cour. Et aucun des 3 avocats de la partie civile ne l'ont demandé. Alors que l'article 9 de la loi de juillet 2010 dit de façon très spécifique, peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les pères et mères qui sont condamnés, soit comme auteurs, co-auteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme co-auteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteur, co-auteur ou complice d'un crime sur la personne de l'autre parent. Donc si l'avocat général ou les avocats avaient plaidé et s'ils avaient demandé à la cour le retrait de l'autorité parentale, je suis sûre qu'après que les jurés aient répondu oui, il y a eu volonté de tuer, quand ce monsieur a étranglé sa femme, il serait répondu très certainement oui au retrait de l'autorité parentale.
Quand Jean-Marie de Nantes revint de la Trinité, il déposa son sac aux pieds de son hôtesse, dans un bar pavoisé par toutes les promesses, le bistrot de Simone. À l'autre prendre un grand coup d'innocence, et plus rien n'aura d'importance.
Et oui, c'était Frédéric qui nous chantait du Gaston Couté et du Pierre-Marc Orlan. C'est donc le mardi 23 avril à 21h, la chanson Mauve au Café de Paris. C'est Café de Paris 158 rue Oberkampf, métro Ménilmontant. Allez-y, ça vaut le coup. D'autant que c'est une copine militante comme nous. Allez-y. Très bien, nous reprenons cette émission. C'est Mode d'emploi, l'émission de chômeurs et précaires sur fréquence paraparielle 106.3 FM. Pour rester dans le ton de cette émission sur les paradis fiscaux et puis la fraude fiscale, je voudrais quand même vous lire quelques passages d'un livre qui est sorti en 2012. Par exemple, environ 85% des opérations bancaires internationales ou des émissions d'obligations sont effectuées via ce que l'on appelle l'Euromarket, un espace offshore. Sinon, le FMI a évalué en 2010 que le bilan cumulé des petits paradis fiscaux insulaires s'élevait à 18 000 milliards de dollars, une somme équivalente à un tiers du PIB mondial. Également, la Cour des comptes américaine, a relevé en 2008 que 83 des plus grandes entreprises du pays possédaient des filiales dans les paradis fiscaux. Sinon, une enquête du Tax Justice Network, une enquête du Tax Justice Network, le réseau pour la justice sociale, fiscale, à partir d'une définition plus large du paradis fiscal, nous a appris que 99 des 100 plus grandes entreprises européennes avaient recours à des filiales offshore. Alors c'est un peu compliqué ce que je viens de lire, mais ça sort donc d'une enquête sur les ravages de la finance néolibérale, les paradis fiscaux, de Nicolas Jackson. C'est collection André Versailles éditeur. Donc le monsieur c'est un journaliste financier, auteur britannique de réputation mondiale, qui est écrit dans le Financial Times et dans The Economist. Voilà. Ludo, t'as vu une annonce aussi à faire ?
Oui, donc vous vous souvenez que nous avons rejeté le traité européen en 2006, je crois, par référendum, mais que le Parlement l'a adopté. Or, il y avait dans ce fameux traité la possibilité pour les citoyens de saisir la Commission européenne par pétition. Voilà. Donc il fallait atteindre 1 million de pétitionnaires dans toute l'Europe pour soumettre un projet à la Commission européenne. Donc c'était la toute petite avancée démocratique qui nous était promis. Or voilà, on a donc peut-être un des premiers des premières pétitions concernant un projet de loi qui est celui du revenu de base. Donc le revenu de base, bon, c'est pour ceux qui ont suivi ou pas notre émission, c'est un équivalent du revenu d'existence, un revenu minimum, c'est-à-dire bien plus élevé, un espèce de RMI beaucoup plus amélioré, plus proche du SMIG, pour toute personne voilà à sa naissance. Et donc cette pétition a été acceptée par la Commission européenne, parce que ça c'était pas dit, mais finalement il fallait quand même que la Commission européenne accepte qu'on soumette un projet à pétition, je vais vous dire, hein. Et donc vous pouvez la signer sur internet. Alors c'est quelque chose de tout à fait sérieux, puisque il faut présenter sa carte d'identité. Et oui, parce que c'est très officiel, puisque si on passe la barre des 1 million, à ce moment-là, la Commission européenne sera obligée de se saisir du texte et de l'examiner. Alors, c'est pas la révolution, mais bon, au moins, on peut se faire un peu une opération de publicité grâce à ça. Et donc, vous pouvez consulter donc cette pétition sur le site, alors c'est actuchomage.org qui l'a mise en ligne, enfin qui l'a relayée, voilà. Et donc bon, bah vous verrez, hein, soutenez l'initiative européenne pour le revenu de base inconditionnel. Vous avez la vidéo qui vous fait la présentation du projet, un dossier, et puis évidemment vous avez accès à la signature par internet, voilà. Et donc il faut absolument que ça marche. Donc parlez-en autour de vous. Pour le moment, il y a 100 000 personnes qui ont répondu, je crois. Donc il nous manque, il en faut, ah non, 21 000 personnes, c'est pas la même chose. Donc bah il manque 980 000 voilà. D'accord. Signataires. Donc dépêchez-vous.
Allez, signez, voilà. Merci beaucoup messieurs dames d'avoir écouté cette émission. Merci Ludo de l'avoir faite avec moi. Merci à Claude, à tout le monde. Je vous dis bien sûr dans 15 jours. Je fais un gros bisou aux filles et une grosse poignée de mon garçon. Ciao.
Bonsoir.